Radio Okapi. Le journal Billy Ivan Lutumba la présentation.
Deux jours ont suffi pour la tenue de l'épreuve de l'ENAFEP, examen national de fin d'études primaires. Ce mardi, jour de la fin, l'inspecteur provincial de Kinshasa, Plateau, dresse un bilan de l'organisation de cet exercice ici à Kinshasa. Nous en parlons tout de suite en ouverture de ce journal. Ils viennent encore de larguer des bombes dans des contrées du Nord Kivu. Ces rebelles du M23, qualifiés de terroristes par Kinshasa et appuyés par le Rwanda, les ont cette fois orientés vers Kanyabayonga. D'autres détails, c'est à suivre dans cette édition. Fifi Kandolo, chef de division en charge des partenariats écosystèmes au Fonaref, est celle que nous recevons comme invitée. L'entretien portera sur l'identification des sites et déplacés internes du phénomène Kamuina-Nsapu dans le Kasaï oriental. Auditeurs de Radio Okapi, merci de votre choix à vous informer sur cette fréquence. Nous vous en souhaitons excellentes conditions d'écoute et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. Avant d'aller plus loin, parlons de cette première réunion du gouvernement souminois ce mardi à l'immeuble intelligent depuis la nomination des ministres. La première ministre a réuni autour d'elle toute son équipe pour une prise de contact et en vue de préparer son investiture prochaine. L'équipe de Judith Souminois est attendue à l'Assemblée nationale dans un bref délai pour présenter son programme et solliciter la confiance des élus du peuple avant d'entrer en fonction. Il nous revient du cabinet de la première ministre que son gouvernement voudrait par cette réunion mettre la dernière touche sur son programme et établir les liens entre membres du gouvernement avant le grand oral de l'Assemblée nationale. Comme dit, clôture ce mardi de l'examen national de fin d'études primaires. De façon générale, le bilan est positif. Tout s'est déroulé dans le calme dans la ville de Kinshasa. C'est ce qu'affirme l'inspecteur provincial de Kinshasa Plateau, point focal pour ses épreuves dans la capitale. Toutefois, certains élèves des sites Maluku 2, 3 et 4 n'ont pas pu passer ce test. Leurs parents craignaient pour leur sécurité. Suivez ces précisions de Bekelenge Benkema, inspecteur provincial de Kinshasa Plateau, au téléphone d'Étienne Lissumbu.
Le bilan est très très positif. Tous les directeurs provinciaux de Kinshasa ne font que pérenniser la gratuité prônée par le chef de l'État positivement. Tous les centres ont fonctionné convenablement. À part chez nous, à la province éducationnelle de Kinshasa Plateau, où il se pose de sérieux problèmes pour trois pôles, Maluku 3, Maluku 2 et Maluku 4 par rapport à cette histoire de Mobondo, les résultats sont prévus avant la clôture de l'année scolaire.
Comment cela va se passer pour un élève qui réussit à l'école et échoue à l'ENAFEP?
L'élève a étudié pendant toute une année scolaire. Cet élève a eu par exemple 48%. Il présente l'ENAFEP. Il obtient 62%. Qu'est-ce qui va se présenter? On prend la moyenne de l'école, 50%, et la moyenne de l'ENAFEP, 50%. On fait la sommation et on obtient les résultats de l'enfant.
Nous nous rendons à présent dans le Kwilu où la division provinciale de l'intérieur procède à la sensibilisation de la communauté à l'enregistrement de toutes les naissances à l'état civil dans le délai de 90 jours. Cette activité, qui se fait grâce à l'appui de l'UNICEF, a pour objectif d'augmenter le nombre des enfants déclarés à l'état civil qui restent trop faibles dans ce coin du Kwilu en particulier et dans la province en général. Pour le chef des divisions de l'intérieur, le souci est de permettre aux enfants qui naissent d'avoir une identité congolaise. Irène Bouma.
D'après le chef de division provinciale de l'intérieur du Kwilu, cette sensibilisation sur l'enregistrement des naissances à l'état civil concerne presque toutes les couches de la population de la zone de santé de Mossango dans les territoires de Massimanimba, dont les leaders communautaires, les agents de santé, les chefs traditionnels, les agents de l'état civil, ainsi que les cellules d'animation communautaire CAC. André Guipoy indique que l'objectif est d'augmenter le taux d'enregistrement des naissances à l'état civil dans les délais de la loi.
Nous sommes venus appuyer le secteur de Mossango, qui est dans la zone du statut de Mossango pour les activités d'enregistrement des enfants de classe civile. Nous venons d'abord de remettre l'outil de travail, le kit complet informatique. Pratiquement, il y aura un bureau sondé qui va fonctionner à l'hôpital général des enfants. Le résultat, c'est d'arriver à augmenter les taux d'enregistrement des naissances dans cette zone de santé pour les enfants de 0 à 90 jours. De 0 à 90 jours, ils ont droit à être enregistrés gratuitement. Ça, c'est la loi qui dit ça. Ceux qui ont plus de 93 jours, c'est là.
Commencée à Mossango comme zone expérimentale, cette activité qui se réalise avec l'appui financier de l'UNICEF va aussi s'étendre dans d'autres zones de santé, a déclaré André Guipoy. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Nord Kivu, l'ONG Badilika dresse un tableau sombre de la situation des enfants dans les zones affectées par les violences armées. C'est à cette occasion quand le monde célèbre ce mardi 4 juin la journée internationale des enfants victimes innocentes d'agressions. Dans un communiqué de presse, cette organisation de défense des droits humains parle des plus d'un millier d'enfants parmi les victimes des massacres attribués aux ADF dans la région de Beni. Sans compter d'autres enfants victimes en ce moment des effets des guerres du M23 ou agressions des groupes armés. Patrick Kambale, coordonnateur de l'ONG Badilika, joint ici par Bernard Nyangi.
Dans cette hémorragie de la guerre du Nord Kivu, il y a des conséquences face à la vie socio-économique de différentes familles. Les enfants sont les plus vulnérables, victimes des crimes contre l'humanité. Les enfants sont recrutés de force, on sont des groupes armés rebelles, ils sont utilisés comme des combattants de la première ligne. Nous avons documenté plusieurs cas où les enfants sont des cibles de massacres et ont compté alors plus de 2000 enfants massacrés par les ADF. Certains sont tués, massacrés par les bombes dans les écoles, là c'est par les M23. Il y a des bombes récemment qui a touché les cadres. Et parmi les victimes, on a compté aussi des enfants. Nous encourageons notre gouvernement et ses collaborateurs à susciter une grande sensibilisation et une recherche plus efficace des solutions aux défis des enfants dans la région des conflits et appuyer le projet pour améliorer la situation de la femme.
Parlons à présent de ces trois bombes larguées par les rebelles du M23 appuyées par le Rwanda. Elles sont tombées ce mardi après-midi à Kanyabayonga et trois autres à Mohola dans le territoire de Lubero. Des sources sécuritaires rapportent que les bombes lancées à Kanyabayonga sont tombées à quelques mètres de la base de la MONUSCO et d'une position des FRDC. Un civil aurait été blessé. Les mêmes sources accusent les rebelles du M23 de vouloir créer la panique dans la zone après avoir échoué dans leur tentative d'avancer vers Kanyabayonga. Les FRDC M23 se battent depuis une semaine pour le contrôle de cette commune rurale. Jusqu'à cet après-midi, les combats se poursuivaient encore. Nous restons dans la même région pour parler de cette poursuite des combats entre les FRDC et le M23 appuyés par le Rwanda dans les hauteurs du Kanyabayonga. L'armée et les rebelles continuent à se battre autour du contrôle de cette commune rurale très stratégique du territoire de Lubero qui ouvre la voie aux villes de Butembo et Beni. Papi Martial Moukeba nous en parle.
Depuis lundi dans la nuit, les combats entre FRDC et les M23 sont concentrés à Kabasha, Kinyamuyaza et Buchibwanyama, des collines situées à 10 km au sud-est de Kanyabayonga. Dans cette zone, l'armée et les rebelles du M23 s'affrontent à l'artillerie lourde avec des tirs qui ciblent les différentes positions. Cependant, côté sud-ouest, les M23 qui a contre-attaqué a progressé depuis lundi soir jusqu'à Kilambo à 6 km de Kanyabayonga. Toutefois, les sources militaires rassurent. Kanyabayonga est ceinturé et protégé par les FRDC et les casques bleus qui patrouillent à l'intérieur et l'extérieur de cette commune rurale. Jusqu'à ce mardi, nos sources rapportent que les FRDC et les M23 continuent à se renforcer en hommes et en matériel de guerre dans les zones de combat. D'un côté, les rebelles tiennent toujours à avancer vers Kanyabayonga pendant qu'au sein de l'armée, on présente cette commune rurale comme, je cite, zone de résistance. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Nous parlons des activités d'importation et d'exportation dans le territoire de Beni qui ont été paralysées lundi matin au poste frontalier de Kassindi Lubiria. Des manutentionnaires ont manifesté en brûlant des pneus sur les grandes artères de la cité pour protester contre une éventuelle délocalisation des marchés de poissons salés du poste frontalier de Kassindi vers l'Ouganda voisin. Le fonctionnaire délégué du gouverneur de province sur place à Kassindi appelle au calme. André Kitenge pour les détails.
Une vive tension a été observée lundi dans la cité de Kassindi Lubiria. Des manifestants protestaient contre une éventuelle délocalisation des marchés de poissons salés du poste frontalier de Kassindi vers l'Ouganda voisin. Dans une déclaration rendue publique lundi, la synergie des structures de la société civile locale appelle le gouvernement congolais à s'impliquer pour, je cite, « déjouer le plan du gouvernement ougandais ». Kambale Maganirio Elkate, leur porte-parole.
Nous appelons au gouvernement congolais de s'investir urgemment dans les dossiers pour contourner les manœuvres orchestrées par le gouvernement ougandais au détriment du peuple congolais. Au gouvernement ougandais de respecter scrupuleusement la loi sur l'exportation des marchandises à transit sous toutes ses formes.
De son côté, le fonctionnaire délégué du gouverneur de la province du Nord Kivu à Kasindi appelle les manifestants au calme. Selon lui, le marché de Kasindi ne sera jamais délocalisé et des contacts entre les deux pays sont en cours. Barthélémy Kambali.
Le marché ne sera jamais déplacé. Nous sommes Congolais, nous devons voir comment avoir une politique commerciale pour notre marché congolais. Et les Ougandais, même chose, le problème est bien suivi. Des contacts réguliers existent entre les deux pays.
André Kitenge, Beni Radio Okapi.
De l'humanitaire à présent, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, indique avoir suspendu depuis le 30 mai dernier la distribution de l'aide alimentaire lancée depuis le 24 du même mois dans la région de Kanyabayonga. Nous sommes dans le Nord Kivu. Dans son communiqué rendu public ce mardi 4 juin, le CICR affirme avoir interrompu cette opération à la suite du rapprochement des affrontements armés entre les forces gouvernementales et le groupe armé du M23 autour de Kanyabayonga et a entraîné le déplacement des nombreux civils. Cette assistance humanitaire était destinée aux personnes déplacées sur l'axe Kanyabayonga, Burangizi et Bulindi dans la chefferie de Bwito. Cette région est à cheval entre Rutshuru et le sud de Lubero. Reportage de Sifa Maguru.
D'après ce communiqué du CICR, sur 58 000 personnes ciblées par cette assistance, l'organisation a pu servir autour de 29 000 jusqu'ici. Le CICR dit avoir donné des rations composées des farines de maïs, des haricots, de l'huile raffinée et du sel iodé. Cette assistance avait pour objectif de répondre aux besoins urgents en termes de nourriture, indique Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR à Goma. Les bénéficiaires de cette assistance sont des habitants qui ont quitté leur localité entre janvier et mars 2024 en territoire des Masisi, Rutshuru et Walikale afin d'échapper aux affrontements. La majorité de ces familles se sont déplacées à plusieurs reprises pour fuir la violence et ont perdu leurs moyens de subsistance. Le CICR se dit inquiet pour ces populations qui deviennent encore plus vulnérables à chaque fois qu'elles se déplacent. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Nouvelle en plus bref dans l'affaire de la tentative de coup d'État manquée le 19 mai à Kinshasa. L'auditorat général des FRDC poursuit ses auditions à la prison militaire d'Ndolo. Près d'une quarantaine d'assaillants présumés des militaires de la garde républicaine impliqués dans l'exécution extrajudiciaire de certains putschistes sont concernés par ces auditions. Celles-ci pourront être bouclées cette semaine avant d'envoyer leur dossier en fixation d'un procès, apprend-on des sources judiciaires. Par ailleurs, rappelons qu'un expert militaire et analyste des questions de sécurité, Jean-Jacques Wondo, se trouve également en détention à Ndolo depuis maintenant 2 semaines. Il est présumé associé au chef de la bande, Christian Malanga, dans la tentative de coup forcé au Palais de la Nation. Plus au centre du pays, dans le Kasaï oriental, les activités commerciales ont été paralysées ce mardi dans la cité de Kenankuna, chef-lieu du territoire du Kabeya Kamwanga. Cela quelques minutes seulement après la levée du corps d'un homme d'une trentaine d'années qui a perdu la vie la nuit dernière après avoir été victime d'une balle perdue au niveau du marché. Après cette brève cérémonie, certains habitants en colère ont amené la dépouille mortelle au commissariat territorial de la police où ils ont détruit les portes, fenêtres, la résidence de l'agent de la police avant de piller deux boutiques des particuliers. Des explications avec Esther Dalafina.
Après le décès par balle perdue de ce cadre de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST Kabeya Kamwanga, son corps est resté au sol depuis la nuit dernière jusqu'à la mi-journée de ce mardi. Les sources sur place affirment que la tension est montée d'un cran dans la cité lorsque le procureur de la République est venu lever les corps en présence de l'administrateur de territoire, de la société civile et d'une foule nombreuse. L'administrateur de territoire affirme que certains habitants ont amené le corps de la victime au commissariat territorial de la PNC Kabeya Kamwanga où ils ont détruit les portes et les fenêtres. La même source précise que 2 boutiques de particuliers ont été pillées et la résidence du présumé meurtrier détruite complètement. Suite à cette tension, l'administrateur dit avoir délivré rapidement les certificats d'inhumation à la famille éprouvée. Rappelons qu'une altercation s'est produite la nuit dernière entre les marchands au marché de Kenankuna. L'agent de police venu pour disperser la foule a tiré quelques coups de sommation. Une balle perdue a atteint un cadre de l'EPST qui sortait d'une pharmacie et il est mort sur place. L'agent de police a pris le large mais a enfin été appréhendé mardi matin dans la localité de Chinchanko à 45 km de Kenankuna. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des milliards de dollars d'aide et de soutien pour l'investissement en Afrique, c'est la promesse formulée mardi par Yoon Suk Yeol, le président sud-coréen. Alors que son pays accueille au moins 48 délégations du continent dans le cadre du premier sommet Corée du Sud-Afrique, Séoul entend renforcer sa coopération avec l'Afrique, notamment dans les domaines des minéraux et des technologies. Le climat figure aussi dans son agenda. Afin de répondre au changement climatique, les dirigeants et les membres participants ont convenu de former une structure de financement du climat qui reflète le besoin de l'Afrique de répondre à la menace. En outre, la Corée du Sud a décidé de développer des projets tels que KRS Belt qui peuvent contribuer à renforcer l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique, a expliqué le président sud-coréen.
L'invité.
La délégation du FONAREV, Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et aux crimes contre la paix et la sécurité, a clôturé ce lundi sa mission en Mbujimayi au Kasaï oriental. La chef de mission a indiqué que le but de la mission est de répertorier les sites des déplacés internes qui ont fui le phénomène Kamwina Sapu. Fifi Mkandolo, chef de division chargée des partenariats et écosystèmes au FONAREV, s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour Madame Fifi Kandolo, quel est le but de votre mission au Kasaï oriental?
Bonjour. Le FONAREV, au travers sa direction générale, les départements des opérations, la direction études, enquêtes et évaluation, nous a mandaté de venir au Kasaï oriental en mission exploratoire des différents sites des déplacés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup d'incidents qui se sont déroulés en RDC, qui ont causé beaucoup de victimes à travers le pays, notamment dans le Kasaï central. Il y a eu le phénomène Kamwina Sapu qui n'a pas échappé aussi à la province du Kasaï oriental et donc dans le grand Kasaï en général. Le chef de l'État, à travers la loi 22/065, a fait en sorte que nous puissions avoir aujourd'hui le FONAREV, qui est un fonds chargé d'implémenter des réparations, que ce soit des réparations individuelles et des réparations collectives en faveur des victimes de violences sexuelles en temps de conflit et des autres crimes graves contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et donc, nous sommes ici pour répertorier les différents sites où il y a les différents déplacés internes qui ont fui les phénomènes Kamwina Sapu.
Combien de sites avez-vous identifiés?
Nous avons pu identifier, ensemble avec les services de la province, autour des 16 sites au Kasaï oriental. Et nous avons eu à visiter 6 sites. Dans ces sites, nous avons trouvé que les gens vivaient dans des conditions difficiles et ils sont en train de demander vraiment des réparations. Et ils saluent vraiment l'initiative du chef de l'État et ils ont mené un lobbying pour que, au travers le FONAREV qui retrouve des réparations. C'est vrai qu'il y a ceux-là qui ont des problèmes de santé, ceux qui ont reçu des balles, qui n'ont pas été très bien soignés, qui sont en train de demander qu'il y ait des réparations sur le plan de l'accompagnement médical. Il y a ceux-là aussi qui n'ont plus d'activité, qui ont tout perdu, des biens, des maisons qui ont été calcinées, brûlées, ils ont perdu des biens. Il y en a qui ont été violés, d'autres ont perdu même des êtres cher. Beaucoup ont demandé les devoirs de mémoire. Pour nous, c'est vraiment des avancées que nous sommes en train d'observer dans ce sens où, lors de la journée des génocostes, le chef de l'État avait demandé pardon publiquement à toutes les victimes le 2 août de l'année passée. Nous allons faire remonter tous les desiderata de ces victimes que nous avons eu à rencontrer dans la province du Kasaï oriental par le truchement des différents responsables des sites avec lesquels nous avons échangé en long et en large pour faire ressortir les besoins, les conditions dans lesquelles nos frères et nos sœurs sont en train de vivre. Voilà les raisons qui nous ont poussés à venir au Kasaï oriental.
Qu'est-ce que ces victimes peuvent attendre après votre passage?
C'est vrai que nous allons remonter tout ce que nous avons eu à collecter comme données au niveau de la direction générale du FONAREV. Mais ce que nous savons, c'est que dans un futur proche, il y aura identification. Notre mission, ce sont les réparations. Et ces réparations, ce sont de deux ordres. Il y a des réparations individuelles et des réparations collectives. Et dans un premier temps, il faudrait identifier les personnes pour lesquelles on pourra implémenter ces réparations. Et donc, dans un futur proche, il y aura des équipes qui vont procéder à l'identification de toutes ces communautés et de toutes les victimes. Et par après, le FONAREV va tabler sur les réparations à apporter, que ce soit des réparations individuelles ou collectives.
Vous avez visité des sites, mais il y a aussi d'autres victimes qui sont dans des familles d'accueil. Est-ce que vous avez eu la possibilité aussi de les rencontrer, Madame Fifi?
Bien sûr, nous avons eu à organiser des focus group avec les autorités politico-administratives. Et le deuxième focus group que nous avons organisé, c'était avec les responsables des camps des déplacés et certains ménages qui vivent dans des familles d'accueil. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de victimes également qui, par manque d'endroits où rester, se sont réfugiés dans des familles d'accueil. Et donc, ce travail que nous allons faire à la longue d'identification va nous mener jusqu'à toutes ces personnes qui ont été victimes du phénomène Kamwena Nsapu.
Madame Fifi Kandolo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et voilà, fidèles auditeurs, nous vous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Debs Vita assurait la prise des soins et la mise en onde. Et Billy Van Loutumba vous l'a présenté.